Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux grèves de mai-juin 1936 et au Front populaire. Pour cette émission, nous sommes avec Charles Jacquier, historien, ancien fondateur et responsable de la collection Mémoire sociale aux éditions Agone, éditeur de trois ouvrages sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui, Front populaire, Révolution manquée de Daniel Guérin aux éditions Agone en 2013, Grèves et joies pures de Simone Veil, la philosophe, aux éditions Libertalia en 2016, et enfin, Tout est possible, Les gauchistes français 1929-1945 de Jean Rabaud aux éditions Libertalia et qui sort en mai 2017. Alors, avant de parler directement des grèves de mai-juin 1936 qui seront l'événement desquelles on va se centrer aujourd'hui, on va présenter dans quel contexte elles ont lieu, qui sont un contexte de crise du capitalisme depuis 1929, de montée du fascisme et en l'occurrence la prise de pouvoir d'Hitler en janvier 1933, sur lequel d'ailleurs Daniel Guérin a consacré de très bons ouvrages, Fascisme et Grand Capital et La Peste Brune, dont et Fascisme et Grand Capital, on le trouvera également aux éditions Libertalia. Donc voilà, on est dans un contexte politique très particulier, et en France, ça va se matérialiser d'une façon qu'on va maintenant présenter. Donc bonjour Charles Jacquier.
Bonjour et merci de me recevoir. Ben pour parler des grèves de mai-juin 1936 et de l'expérience du Front populaire, je pense que, comme tu l'as dit, il faut remonter quelques années auparavant, et même un peu plus haut que ce qu'on fait habituellement, puisque, en général, c'est la manifestation du 12 février 1934 qui est considérée comme l'acte fondateur en France de l'expérience du Front populaire. À mes yeux, c'est en partie vrai, bien évidemment, mais il faut remonter un petit peu au-delà, un petit peu en deçà de cette date, avec ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le fait que le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier de ce qui est encore pour quelques semaines la République de Weimar, par le président Hindenburg, avec les conséquences que l'on connaît. D'une manière générale, on attribue l'arrivée d'Hitler au pouvoir à deux choses. Évidemment, la première, c'est la crise du capitalisme, qui est particulièrement forte en Allemagne, et qui touche l'Allemagne quasiment quelques semaines après... après le krach de 1929 aux États-Unis. Mais c'est aussi, ça c'est l'aspect économique, l'autre aspect c'est l'aspect politique. Je veux dire, si Hitler est nommé chancelier, c'est pas du tout parce qu'il a obtenu une majorité, même relative, aux élections. Au contraire, les dernières élections libres de la République de Weimar Hitler a un petit peu reculé au niveau électoral, de 2-3%, si ma mémoire est bonne. Et donc, il n'est pas du tout dans une phase d'ascension telle qu'elle a pu avoir lieu dans les premières années de la crise, où là, il est passé de quantité négligeable à 20, 25, voire 30% des voix aux élections. C'est bien parce que la bourgeoisie allemande pense avoir épuisé toutes les possibilités autres qu'Hitler de sortir de la crise politique dans laquelle elle est plongée depuis plusieurs années, d'une part, et d'autre part parce que les grandes organisations ouvrières ont été incapables de pratiquer une politique que, en termes d'époque, on aurait appelé une politique d'unité d'action. C'est-à-dire le fait que les organisations ouvrières, pour faire bref, socialistes et communistes, auraient travaillé ensemble contre un danger commun. Au contraire, on a vu qu'en Allemagne, les deux organisations, chacune pour des raisons particulières, s'oppose à l'autre d'une manière extrêmement dure. Et il y a un certain nombre d'événements marquants, comme par exemple le référendum en Prusse ou la grève des transports de Berlin, où les communistes sont alliés avec les nazis contre la direction des transports berlinois qui dépendent d'une mairie social-démocrate, quoi. Donc on voit que ça va très très loin. Le danger il est là, il est bien présent. Mais pourquoi l'unité ne se fait pas? La plupart des commentateurs, des historiens estiment que c'est la volonté politique de la Troisième Internationale, donc de Staline et de l'Union soviétique, d'interdire en gros au Parti communiste allemand toute alliance avec la social-démocratie dans ces années-là. Et ça va aller très très loin, puisque y compris quelques jours avant la nomination d'Hitler comme chancelier, les nazis, à l'époque Berlin est considéré comme la grande ville ouvrière, la grande ville rouge d'Allemagne, et les nazis, pour marquer les esprits, vont organiser une grande manifestation dans les quartiers ouvriers de Berlin, manifestation qui devait se terminer devant la Karl Marx House, qui était le siège du Parti communiste à Berlin. Donc c'était une gigantesque provocation à laquelle on aurait pu s'attendre à voir les organisations ouvrières se faire front commun face à ce danger. Et ce qui s'est passé, c'est que le Parti communiste allemand a reçu l'ordre de ne pas broncher, de ne pas bouger, pour ne pas céder à la provocation, quoi. Et ça a été le dernier épisode symbolique avant la nomination d'Hitler comme chancelier le 30 janvier. Alors pour ces événements-là, et pour les comprendre un petit peu presque de l'intérieur, il y a un témoignage d'époque qui est absolument passionnant, c'est celui d'Hippolyte Echeverri, dont le pseudonyme était Juan Ostico, qui était un communiste puis communiste d'opposition argentin, qui était venu en Europe au début des années 30 et qui se trouvait en Allemagne avec sa compagne Mika, donc qui se trouvait à Berlin pour étudier le marxisme dans les écoles du Parti communiste allemand, même s'il était dans un groupe d'opposition de gauche à ce moment-là, et lui décrit vraiment extrêmement bien de l'intérieur, puisque il montre comment les militants s'interrogeaient, ne savaient pas quoi faire, se demandaient s'ils allaient quand même se rendre à une manifestation plus ou moins spontanée ou non, enfin, etc. Enfin, il décrit remarquablement bien le désarroi de ce qui était à l'époque, il faut pas l'oublier, considéré comme le mouvement ouvrier le plus fort d'Europe. Hein, le parti social, aussi bien le parti social-démocrate allemand que le parti communiste allemand sont dans ces années-là, sont jusqu'en 1933 les deux premières organisations ouvrières d'Europe en dehors de, évidemment, en dehors de l'Union soviétique pour le PC. Et donc c'est quelque chose qui est considéré par un certain nombre de gens comme une véritable catastrophe. Et la philosophe Simone Weil, dont on parlera tout à l'heure à propos des grèves, a déclaré à propos de la défaite allemande de janvier 33 que c'était un événement aussi lourd de circonstances, voire plus, que ce qui s'était passé au mois d'août 1914 avec le déclenchement de la première guerre mondiale.
Et le ralliement à l'Union sacrée.
Et le ralliement à l'Union sacrée. Elle dit en gros, il y a eu août 14, maintenant il y a janvier 33, et c'est finalement encore plus grave que ce qui s'est passé en août 1914. Et à mon humble avis, je pense que la suite des événements lui a donné totalement raison. Donc voilà pour le contexte international. On a donc une politique de l'Union soviétique et de Staline qui considère que la social-démocratie est son ennemi principal, d'où la qualification, par exemple, de social-fascisme, pour qualifier les partis socialistes de l'époque, et donc un refus absolument catégorique de toute union véritable entre partis ouvriers pour combattre le fascisme. Alors pour la France, pour en arriver à la France, je dois ajouter aussi, toujours pour l'Allemagne, que aussi curieux ou aussi paradoxal que ça puisse paraître, cette politique va se poursuivre, y compris après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il y a des déclarations de responsables communistes allemands de mars-avril 1933, qui continue à dire notre ennemi principal, c'est la social-démocratie, et on va se débarrasser du fascisme, enfin ou du nazisme sans aucun problème. C'est qu'une question de ils sont là au pouvoir que pour une courte période, on va vite s'en débarrasser, et notre ennemi principal, c'est la social-démocratie. Au niveau international, Staline va s'apercevoir très rapidement. Alors, de quoi ça vient, cette attitude? Bon, ça vient d'une prise de position théorique de l'international communiste de 1928, qu'on a appelée la politique de la troisième période, et qui, en gros, considérait que le capitalisme était arrivé à sa phase de crise finale. Et que dans ce contexte-là, c'était la social-démocratie l'ennemi principal. Donc au niveau intérieur, les PC combattent les partis social-démocrates nationaux. Par exemple, le PC français s'oppose de manière très très radicale
à la SFIO,
et en même temps promeut des manifestations ou des grèves violentes, enfin des choses de ce type-là, qui ne touchent évidemment que très très peu de monde, quoi, qui ne touchent qu'un certain nombre de militants très très convaincus, et le coupe de la base ouvrière et du plus grand nombre. Donc il y a cette politique là qui est menée au plan intérieur, et au plan international, c'est le fait de considérer la Grande-Bretagne et la France comme les ennemis principaux de l'Union soviétique, et par exemple aussi de refuser de participer à la Société des Nations, qui est une sorte d'ONU, d'Organisation des Nations Unies de l'entre-deux-guerres. Donc l'URSS refuse de collaborer avec les vainqueurs de la guerre de 14, Grande-Bretagne et France, considère que c'est les ennemis principaux. Là, on a le contexte général. Ça vient d'une chose qui qui est assez peu connu, mais je pense qu'il faut rappeler, c'est que à ce moment-là, Staline est persuadé qu'il va pouvoir s'entendre avec avec Hitler, dans la mesure où il s'est précédemment entendu avec d'autres régimes autoritaires, par exemple avec l'Italie de Mussolini, par exemple avec la Turquie de Mustafa Kemal, etc. Enfin, Staline n'a aucun problème à s'entendre. À avoir une politique de collaboration avec, avec un certain nombre de régimes autoritaires ou fascistes, notamment l'Italie mussolinienne. Et donc, il pense qu'il va pouvoir réitérer le même, la même démarche avec l'Allemagne de Hitler. Sauf que ça ne fonctionne pas de la même manière, comme on va le voir. Mais il va mettre un certain nombre de mois à s'en apercevoir, avant d'adopter un tournant radical à 180 degrés de politique internationale qui va entraîner un changement de politique interne des PC, y compris, pas y compris, en premier lieu en France, hein, comme on va le voir.
Oui, c'est assez intéressant de parler de, des changements de la stratégie du Parti communiste. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une... Enfin, que le Parti communiste, enfin, que les partis communistes et toutes les organisations ouvrières qui y sont rattachées sont en fait liées à une stratégie qui est décidée par pratiquement une seule personne ou disons par un comité extrêmement restreint et qui défend avant tout la vision du moment pour la défense stratégique de l'URSS. Et du coup, ce qui les amène à des virages assez délirants, voilà, effectivement, d'une politique extrêmement critiquable, où finalement, bien sûr que la social-démocratie est un ennemi de la classe ouvrière, mais bon, le fascisme aussi, quoi, clairement, et même peut-être encore plus.
Encore plus, ouais.
Voilà, et donc du coup, il tombe un peu dans... Enfin, du coup, c'est une stratégie bon, complètement... Et puis en plus, qui nie toutes possibles modulations stratégiques... toute possibilité, enfin toute autonomie, parce que là c'est vraiment une stratégie monolithique qui est adoptée partout, quelles que soient les conditions, quelles que soient les périodes, et qui bon aboutit à des résultats effectivement désastreux en Allemagne. Et puis après il y a ce virage radical qui est celui des fronts populaires, où alors là c'est presque, on va en parler dans l'émission, mais on en a parlé pas mal pour l'Espagne dans une autre émission sur ce que va faire Staline en Espagne, avec du coup là ce qu'on pourrait appeler là dans la haine de la social-démocratie, on est un peu dans une espèce de stratégie ultra-gauchiste, enfin une espèce de rhétorique ultra-gauchiste. Bon, le fascisme finalement c'est pas très important. Ce qui compte c'est la social-démocratie qu'il faut éliminer. Et là c'est presque l'inverse. C'est, on peut s'allier avec tout le monde et n'importe qui juste pour lutter contre le fascisme. Et on passe l'éponge sur ce qui fait qu'il y a quand même des discours dans le Front populaire qui sont quand même mémorables, comme le discours de Maurice Thorez, où il s'adresse, il va aller jusqu'aux catholiques, les commerçants, les artisans,
les croix de feu,
un discours vraiment presque le tout venant, quoi. Venez nous rejoindre, qui fait penser un peu la politique du Parti communiste espagnol en Espagne, où là ça va être une stratégie anti-révolutionnaire, défense de la propriété privée, de la république bourgeoise, enfin vraiment c'est... Mais c'est important vraiment ce qui structure aussi cette époque, c'est effectivement c'est quelque chose qu'on comprend pas trop aujourd'hui, c'est que c'est à une ligne qui décide et ça influence en fait la politique générale des mouvements ouvriers dans tous les pays d'Europe, quoi.
Oui, non, absolument. Donc, ce qui se passe, pour revenir au contexte français, il va y avoir je pense qu'il faut noter, il y a plusieurs épisodes à noter. Le premier que j'ai envie de rappeler, parce que ça concerne le mouvement syndical, c'est l'échec de l'expérience du comité des 22. Alors, ce comité des 22, qu'est-ce que c'est? C'est, au début de, dans les Une fois que la crise a atteint la France, à partir de 1931-1932, un certain nombre de militants syndicalistes on pourrait qualifier de syndicalistes révolutionnaires, hein, c'est-à-dire partisans de la charte d'Amiens, en gros du syndicalisme du 1er mai 1906, d'avant la guerre de 14, quoi, la CGT d'avant 14, quoi, on va dire.
Sur laquelle on a fait une émission d'ailleurs.
Ces gens-là, donc il y a des gens qui sont dans plusieurs organisations, donc ils sont à la CGT, à la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, qui a été créée en décembre 21 par une scission de la CGT, où se sont retrouvés, en gros, communistes et plutôt militants révolutionnaires, mais les révolutionnaires non communistes ou opposants communistes se sont retrouvés relativement marginalisés dans les années qui suivent, et la CGTU s'est complètement alignée, y compris de manière statutaire, sur le PC dans ces années-là, quoi, entre 25 et sa disparition suite à la fusion de 35-36 avec la CGT, enfin à la réunification de la CGT. Donc ces gens-là se disent donc sont dispersés, ces partisans de la charte d'Amiens, du syndicalisme avant 14. Ils sont dispersés puisqu'ils sont à la fois à la CGT, ils constituent une minorité de la CGTU qui est assez importante mais qui est en phase
de régression,
de repli. Et des syndicats autonomes, c'est-à-dire des syndicats qui sont non confédérés.
C'est la CGTSR ?
Non, c'est pas la CGTSR, c'est des syndicats autonomes qui sont dans telle ou telle branche professionnelle, mais qui sont pas rattachés à une confédération. Il y en a dans le bâtiment, il y en a dans les impôts, enfin il y a plusieurs syndicats comme ça qui sont autonomes. Mais qui sont sur une base, en gros, lutte de classe, charte d'Amiens, etc. Et donc, ces gens-là se réunissent en se disant « danger fasciste, crise économique du capitalisme, le syndicalisme est faible, divisé, si on veut peser sur les événements, il faut qu'on impulse une réunification syndicale sur la base de la charte d'Amiens et une espèce de retour au syndicalisme d'avant 14 dans les conditions de la crise des années 30, quoi. Indépendance, lutte de classe, grève générale, etc. Et ce comité, c'est Daniel Guérin dans le bouquin que tu as cité et dont on va parler à plusieurs reprises, qui décrit vraiment de l'intérieur cette expérience. Parce que jeune militant, correcteur, adhérent du syndicat des correcteurs, etc., il a vécu de l'intérieur, puisqu'il était un des rédacteurs du Cri du Peuple, qui était le journal qui avait été créé par ce comité des 22 pour promouvoir l'unité syndicale. Et ce comité des 22 va connaître un triste sort, puisqu'il va échouer, dans la mesure où il va se heurter aussi bien à la CGT qu'à la CGTU, aux logiques d'appareil qui vont absolument interdire et refuser la réunification syndicale, en particulier sur les bases sur lesquelles voulait travailler le comité des 22. Donc ça, c'est la première chose. On voit que le syndicalisme est vraiment complètement surdéterminé par les logiques bureaucratiques, par les logiques d'appareil, et n'arrive absolument pas à renouer avec sa démarche d'indépendance, d'autonomie et de lutte de classe qui avait été celle de la CGT d'avant 14. Le deuxième épisode, c'est que au niveau du PC, il y a des gens qui se posent de sérieuses questions sur la politique qui est menée depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, quoi. Et qui comprennent absolument pas que aussi bien l'international communiste que le PC français continue à refuser toute politique d'unité d'action contre l'extrême droite, après ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a un numéro de la revue Mass qui est une petite revue d'extrême gauche animé par René Lefebvre, qui est le créateur des éditions Spartacus, qui existe encore aujourd'hui, avec, bon, évidemment, c'est plus lui, mais parce qu'il est mort il y a déjà assez longtemps, mais qui continue quand même à entretenir cette culture politique et à maintenir en vie ces textes-là. donc un numéro de masse qui titrait « Ferons-nous comme en Allemagne l'unité dans les cimetières ?» Donc ça montre bien quel était l'état d'esprit de ces minorités révolutionnaires. Et dans le PC, les gens se posaient la question de « Mais est-ce que, après ce qui s'est passé en Allemagne, à quoi ça rime de continuer à taper à bras raccourcis sur la social-démocratie alors qu'on a un danger d'extrême droite de plus en plus important. Donc il y a des tiraillements à l'intérieur du PC sur la politique à suivre. Le troisième élément de politique internationale qui est à mes yeux fondamental, c'est qu'au bout d'un certain temps, Staline s'aperçoit que ses appels du pied à Hitler tombent complètement à l'eau, sont totalement inutiles. Et donc, il faut envisager un revirement à 180 degrés de la politique monnaie, qui sera non seulement un revirement de politique internationale, mais ensuite un revirement de politique intérieure pour chacun des PC qui dépendent de l'international communiste. Et ça va avoir lieu en plusieurs étapes. Il y a une première étape autour de l'été 34, mais surtout en 35, après le voyage de Pierre Laval, qui est le premier ministre, donc le chef du gouvernement français, tout dans un souci de politique internationale, hein, toujours. En gros, dit, bon, jusqu'à maintenant, on vomissait les soviets, etc., parce que c'était un régime révolutionnaire, l'homme au couteau entre les dents, et tout ce qui s'en suit. Mais finalement, dans la mesure où il y a le danger hitlérien ou le danger nazi, ben, il faut essayer de réactiver une alliance de revers, telle qu'elle avait pu exister au moment de la guerre de 14, où on avait vu une république radicale s'allier avec l'empire des tsars, quoi. Donc finalement, la politique internationale, c'est vraiment la réelle politique, hein, donc le régime, on en a rien à foutre. Et finalement, nous, on a un voisin, on a une frontière commune avec lui, qui est l'Allemagne. Qui risque de devenir très rapidement menaçant. Donc il faut trouver une alliance de revers, et cette alliance de revers, on va la chercher à Moscou. Et donc Laval fait le voyage à Moscou, acte au niveau international le changement de politique complet, puisque tout à l'heure je l'ai expliqué, la France et la Grande-Bretagne étaient considérées comme les ennemis prioritaires de l'URSS. Là au contraire, ça devient les alliés privilégiés de l'URSS. Et l'ennemi, c'est l'Allemagne, quoi. Donc tout ça, là aussi, je renvoie à Daniel Guérin, qui explique ça d'une manière tout à fait précise, rigoureuse et remarquable. Et nécessairement, l'alliance au niveau des États va complètement changer la donne au niveau de la politique intérieure. Puisque le tournant qui avait déjà été acté, d'une manière moderato cantabile, enfin d'une manière très très modérée à partir de l'été 34, s'accentue l'année suivante et démarre le processus d'alliance électorale qu'on va connaître sous le nom de Front Populaire. Au niveau du mouvement social, ça va se traduire par une autre alliance qui va être le fait que désormais la réunification sera possible, la réunification syndicale. Donc on a vu ce qui était impossible en 1932 avec le comité des 22 devient maintenant possible. Et donc les appareils de la CGT et de la CGTU se rapprochent à partir de l'été 35 et vont donc entamer un processus un peu complexe de réunification des différentes fédérations, etc., pour finalement arriver à une CGT réunifiée. Et cette CGT, elle est réunifiée au congrès de Toulouse qui a lieu en mars 1936, donc quelques semaines avant le début du... Front Populaire. Alors le processus du Front Populaire, il va Donc se traduire par un programme de gouvernement qui va être extrêmement extrêmement light, comme on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment des généralités. Alors il y a le fameux slogan, c'est le pain, la paix, la liberté. J'ai envie de dire, ça mange pas de pain. Parce qu'effectivement, qui sait qui peut être contre la paix ou que chacun ait de quoi manger, etc. Bon, voilà, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, quoi. Mais voilà, le problème du Front Populaire, c'est alors ce qui est assez curieux, là aussi, Guérin l'explique parfaitement bien. C'est qu'il va connaître, plusieurs phases. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va parler d'unité d'action. Unité d'action, en termes du mouvement ouvrier traditionnel, l'unité d'action entre les partis ouvriers, donc par exemple socialistes, communistes, éventuellement d'autres petits partis qui se situent entre le PC et la SFIO, ou même plus à gauche. Mais ça reste sur une base de parti organisation ouvrière. Et rapidement, le PC considère qu'il faut aller au-delà. Et c'est le PC qui va essayer de ramener les radicaux, et même qui va essayer de confier, là aussi je vous renvoie à Guérin qui explique ça d'une manière lumineuse, va essayer de non seulement de rattacher les radicaux, qui effectivement ne sont plus un parti ouvrier du tout, mais en gros on dirait en termes contemporains un parti qui va un coup à gauche, un coup à droite, quoi, une espèce de parti centriste, de parti charnière sur la Troisième République.
Et du coup la petite bourgeoisie
qui gouverne à peu près tout le temps, un coup avec le soutien des socialistes, un coup avec le soutien du centre, de la droite, etc. Enfin voilà, donc c'est ce type de formation qui est très très bourgeoise, petite bourgeoise, etc. Mais parce que l'arrière-pensée du PC c'est toujours les questions internationales et pas du tout les conquêtes, et pas tellement les conquêtes ouvrières qui sont pas vraiment au programme du Front Populaire, en dehors des généralités sur Le Pen et la liberté et autres. C'est le PC qui va chercher et qui va essayer d'imposer les radicaux comme parti moteur de ce Front Populaire, quoi. Et finalement, les résultats électoraux d'une part et la perte d'influence des radicaux font que c'est les socialistes qui vont prendre le dessus. Mais à ce moment-là, donc on passe de l'unité d'action entre organisations ouvrières à ce qu'on appelle le Front Populaire, hein, donc avec élargissement vers le centre-gauche, avec un parti petit bourgeois ou bourgeois. Et ensuite, le PC ira encore plus loin en proposant, c'est le terme, c'est pas...
Le Front des Français.
Le Front des Français, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le terme d'époque. C'était le Front des Français, et donc ça viendra après la victoire électorale, dans une grande tentative de Torres de s'adresser aux catholiques, et il ira jusqu'aux croix de feu, c'est-à-dire à une organisation d'extrême droite qui était composée principalement d'anciens combattants et qui était dirigée par un gars qui s'appelait le colonel de Larocque.
Et qui avait tenté le fameux coup du 6 février.
Qui avait tenté le fameux coup du 6 février. Alors pour revenir un petit peu en arrière, le 6 février, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un gouvernement radical.
En 34, du coup.
Ouais. Le 6 février 34, on a un gouvernement radical qui est empêtré dans un scandale politico-financier autour d'un financier plus ou moins véreux, si vous me pardonnez le pléonasme, qui s'appelait Alexandre Stavisky, et qui est retrouvé, comme a dû le titrer le Canard enchaîné, suicidé de deux balles dans le dos. Et donc ça crée donc lequel Stavisky était lié avec des hommes politiques radicaux, etc. Donc crise politique sur fond de scandale financier, et les organisations, ce qu'on appelle les ligues à l'époque, hein, c'est-à-dire des organisations d'extrême droite, hein, comme donc les Croix de Feu dont j'ai parlé, l'Action française, etc., dessinent une manifestation sur la place de la Concorde qui doit rejoindre l'Assemblée nationale. Manifestation extrêmement violente qui se solde par plusieurs morts, aussi bien côté police que côté manifestant, et qui est pris, qui est considéré par non seulement la gauche, mais une bonne partie de l'opinion publique comme un coup d'État, une tentative de coup d'État ratée de l'extrême droite, hein, pour renverser la République radicale, quoi. Illustration au niveau de la politique que mène le PC. Le PC, par le biais de l'ARAC, qui est l'Association républicaine des anciens combattants, qui est une organisation qui est liée au PC, quoi, d'une manière organique depuis sa création. Donc l'ARAC, organisation liée au PC, manifeste le 6 février en même temps que les ligues. On est un peu dans le même cas de figure que le rapprochement nazi-communiste au moment de la grève des transports de Berlin de l'hiver 1932, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, finalement, la manifestation est réprimée, elle échoue, mais il va y avoir un sursaut des organisations de gauche, lequel sursaut va se faire en deux temps. Le 9 février, le PC convoque avec ses organisations satellites, convoque une manifestation dans l'est parisien, vers la République, etc. Enfin, dans toute la partie est de Paris. Manifestation qui, là aussi, se solde par des morts, des blessés, etc. Et c'est un peu une manière pour le PC de se dédouaner de sa participation à la manifestation du 6. En même temps, la CGT, la SFIO et d'autres organisations du style les droits de l'homme, etc., appellent à une grève générale, enfin la CGT appelle à une grève générale de 24 heures pour s'opposer à l'extrême droite, le 12 février. Donc, avec les organisations que j'ai citées, là, socialistes, Ligue des droits de l'homme, et tout ce qui s'ensuit. Et le 12 février, effectivement, cette grève politique marche très bien. Et ce qu'on retient, c'est la manifestation parisienne et le fait que les cortèges, donc les communistes y appellent aussi de leur côté, et finalement les cortèges se rejoignent et fraternisent à la fin de la manifestation. Donc c'est ça qu'on présente de manière un peu,
Image d'Épinal.
Béni oui, ou image d'Épinal, etc., comme la fondation du Front Populaire. Alors effectivement, c'est des événements qui ont eu lieu, il faut pas du tout le nier, qui ont été extrêmement importants pour les gens qui ont vécu, parce que les militants sont regardés en chien de faïence depuis des années et des années, donc c'est quelque chose qui compte. Mais c'est à mon avis malgré tout un épiphénomène par rapport à tout ce que j'ai présenté précédemment. Et comme je l'ai dit à propos de la politique du PC, ça n'a pas du tout amené le PC à changer de politique le lendemain de la manifestation du 12, quoi. Il faudra plusieurs mois et une directive de l'Internationale communiste, donc de Moscou, pour que il commence à envisager la politique qu'on appellera ensuite la politique d'unité d'action et de Front populaire.
Oui, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que on sort de l'image, enfin de l'histoire un peu traditionnelle du Front populaire avec un peu une espèce d'unité antifasciste, le sursaut antifasciste spontané des organisations ouvrières pour quelque chose qui donne plus d'importance et, à mon avis, a raison, à des changements stratégiques à un très haut niveau de l'international communiste. Et c'est vrai que pour la guerre d'Espagne aussi, ça a joué un rôle énorme. Là. Et pour le coup, le revirement là, de Staline s'est traduit par le fait que pendant toute la guerre, il a dit il faut être modéré et pas faire la révolution. Parce que finalement les démocraties bourgeoises vont nous aider, et puis finalement bah, les démocraties bourgeoises n'ont jamais aidé les révolutionnaires espagnols, et ça a raté. Bon, on va faire après cette première partie, et avant d'aller sur ce qui précède immédiatement les grèves de 36, c'est-à-dire les élections du Front, l'élection du Front populaire en mai 1936. Et puis donc les grèves de mai-juin 1936, on va faire une petite pause musicale.
À Paris et dans la région parisienne.
Jusqu'au bout pour la défense de nos revendications. Le voulez-vous, camarades?
Oui!
Pour les revendications, hippie-pique!
Oui!
Hippie-pique!
Oui!
Dans le Nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers.